Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là en ce début de semaine pour vous accompagner, du moins aujourd'hui, au cours des 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Lorsque l'on est parent, tout ce que l'on souhaite, hein, c'est le développement maximal de notre enfant. On souhaite que ça se passe bien à plein de niveaux. Et on oublie parfois que des activités toutes simples peuvent favoriser son développement, comme le découpage, hein, qui est loin d'être une activité banale en ce qui a trait au développement de la motricité fine de votre enfant. Et l'ergothérapeute Josiane Caron-Santa en parle dans son livre « L'apprentissage du découpage chez l'enfant ». On lui parle en deuxième partie d'émission. Aussi, je pense qu'il y a à peu près personne qui, du moins à un moment ou l'autre de sa vie, qui est épargné par la peur d'être jugé, d'échouer, de ne pas réussir, tous les synonymes, là, le désir de réussir, de plaire, c'est très, très présent dans notre société. On est modelé par des exigences sociales, professionnelles, des occupations diverses, beaucoup d'occupations aussi. Ça préoccupe, bien des gens se souhaitent performer, c'est présent chez des gens qui ont toutes sortes de métiers, même des enfants. Il y a Claude Webster qui vient tout juste de sortir un bouquin qui s'appelle « Atteindre sa zone d'excellence », un guide pour performer sous pression. On lui parle à l'instant. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Bon, vous venez d'écrire ce livre-là, vous venez du milieu de la musique, la musique plus classique, donc où on a à performer assez souvent sur scène. Vous êtes également, et je pense qu'il faut le dire, enseignant, conférencier, coach professionnel, certifié en PNL et en hypnose. Vous n'allez pas m'hypnotiser, là?
Seulement si vous le voulez.
Je suis certaine, en plus, que vous en êtes capable. La performance, c'est quoi, premièrement?
La performance, moi, le point de vue que je prends, c'est vraiment les gens qui ont besoin de relever un défi, qui se ramassent en situation de défi, mais qu'ils ont une activité très spécifique à utiliser et que tout à coup, pour X raisons, les interférences arrivent. Comme vous mentionniez plus tôt, les jugements, la peur, les peurs, les critiques, tout ce qui se passe au niveau, ce que j'appellerais le jeu intérieur.
Et ce qui font qu'on ne va plus très bien dans ce qu'on nous demande, dans les exigences qui sont requises.
Oui, on perd finalement nos moyens. Mon but, c'est de redonner aux gens le contact avec leur potentiel intérieur, d'arriver à faire au moment X, au moment décidé, de donner le meilleur d'eux. On pratique, nous, sur scène ou en musique classique, on pratique pendant des semaines, des mois, pour arriver au moment fatidique où est-ce qu'il faut donner non seulement le meilleur de soi, mais on veut se dépasser. Lorsqu'on arrive à vraiment rester ce que moi j'appelle dans notre zone d'excellence, oui, c'est justement ce qu'on arrive à faire. Non seulement on se rend justice, mais on peut même aller plus loin parce que justement, ce stress reste à l'extérieur de nous.
Claude, Québec Science vient de publier un article, en fait, c'est le sujet de toute l'édition, dernière édition, sur l'anxiété. Et il y a des psychologues qui témoignent en disant que l'anxiété de performance est très, très présente. À peu près, là, un enfant sur quatre va vivre ça à un moment donné dans sa vie, un adulte sur quatre également. On est aussi à une ère où on essaie de repousser la performance pour être mieux. Et là, vous nous arrivez avec ce livre-là. Pourquoi c'est important de performer?
Bien, pour moi, c'est-à-dire qu'au contraire, c'est important d'avoir des outils pour pouvoir dédramatiser, pour pouvoir aider les gens justement à se rendre compte que les enfants qui ont de la misère, en parlant, en trouvant les outils utiles, les enfants se rendent compte que, ça fait partie du processus normal d'apprentissage de se dépasser, de sentir une résistance, d'y faire face et d'aller plus loin. Alors, il y a beaucoup d'étapes à mettre en place, je pense, pour qu'on aille tous dans la même direction, c'est-à-dire vaincre justement ce mécanisme un peu malsain qui est de « j'ai peur, j'y vais pas
». Est-ce que c'est une question de personnalité ou de tempérament, c'est-à-dire arriver à performer ou ne pas y arriver?
C'est intéressant comme question parce que, écoutez, Marianne, il y a des gens qui, naturellement, évidemment, le font très bien. Alors, on s'inspire de ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un qui, étant jeune, j'ai beaucoup performé, étant pianiste de formation. J'avais des très bons moments et des moments où est-ce que je pouvais recaler. Et j'ai tout fait pour trouver comment m'y prendre pour arriver à mieux performer, pour vraiment... Et j'ai trouvé très peu de choses pour m'aider. À mon époque, dans les années 80, on était ou bien bon en musique et on performait, ou bien on allait enseigner. C'était tout ou rien. Alors que dans le fond, il y a maintenant, grâce aux recherches et à l'efficacité de l'Internet, on se rend compte qu'il y a tellement de choses possibles pour nous aider. Alors ce livre se veut justement une boîte à outils pour venir vous aider de plein de niveaux, autant sur faire face à vos peurs qu'apprendre à calmer son dialogue intérieur, à devenir un peu plus agile, à jouer avec ses pensées qui sont souvent très négatives pour construire une meilleure confiance en soi, etc.
Parce que lorsque l'on pense à des gens qui performent, on en a tous en tête, ça peut être des sportifs, des Olympiens, moi je pense à Grégory Charles, je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là?
Ce sont des gens qui arrivent justement à canaliser leur passion, qui sont tellement un peu comme, mon Dieu, comment je vous dirais ça? Même parler à la radio, comme vous faites en ce moment, là, animer une émission, demande une concentration. C'est très simple, on accède au moment présent en restant concentré sur les buts à court terme de ce que c'est qu'on a à faire. Alors, on fait un pas à la fois pour rester ici, maintenant. Alors, ces gens-là sont des gens qui réussissent à garder ce que moi j'appelle la zone d'excellence. C'est comme si on avait un parapluie. Puis on ouvre son parapluie et toutes les pensées, toutes les choses qui peuvent venir nous déranger, on le garde à l'extérieur pour pouvoir rester vraiment ici en connexion avec ce que c'est qu'on a à faire.
Il y a aussi un passage dans votre livre où vous parlez de la préparation, qui est un facteur à la réussite, à la performance.
Absolument. Absolument. On a tendance à sous-estimer, si je donne un exemple d'un sportif ou un exemple d'un musicien, on pratique l'activité en elle-même. Mais on ne pratique pas comment ça va se passer quand je vais être nerveux. On espère que ça va bien aller, mais on n'y pense pas trop. Alors qu'au fond, il y a vraiment beaucoup à construire qui fait que quand on arrive sur scène ou quand on arrive au moment de performer, même en sport, on est préparé à ce que si je suis pour être nerveux, comment je veux réagir? S'il m'arrive quelque chose d'inattendu, effrayant, là, en audition, quelque chose, comment je veux réagir? C'est quoi mes options? Sachant qu'il va peut-être arriver plein de choses. Et là, tout à coup, j'ai confiance en moi et il arrive beaucoup moins de choses parce que, justement, je suis prêt.
Dans le livre, Claude, vous donnez beaucoup d'exemples de vos étudiants, de vos élèves, comment ça se passe, le coaching avec eux. Et ce qui m'a marqué, c'est souvent l'image qu'ils perçoivent d'eux-mêmes. Vous leur demandez, en fait, ils témoignent de leur performance en disant « Bah, c'était vraiment n'importe quoi. »
C'est pas bon, ouais.
Et là, vous leur demandez un chiffre sur 10 et ils vont dire « Ben, 7. » Bon, ce passage-là, peut-être 3, mais bon, dans la globalité, 7, 8, 10. Et là, c'est un questionnement, se dire « Dans notre perception, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On pense qu'on n'a pas performé et pourtant, oui, tout était là. »
Oui, c'est un peu vous savez, quand on dit « On voit le verre... » à moitié vide ou à moitié plein. Dans ce cas-ci, surtout, moi, je fais affaire avec des gens en musique classique, où est-ce que les attentes de performance au niveau de la perfection sont très élevées. Le verre est aux trois quarts plein. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est le quart qui manque. Alors, quand je leur demande sur une échelle de 0 à 10, c'est que ça leur permet de recadrer et de tout à coup reprendre confiance parce qu'ils font « Ah non, c'était pas bon, mais c'était à 7. » Fait que moi, je dis « C'était pas bon, est-ce que c'était 4? » Non. Donc, t'es capable. Oui, je veux juste le faire un peu mieux. OK, donc c'est pas la fin du monde. Parce que pour eux, c'est la fin du monde. Si c'est pas 10, c'est rien. Puis ça, dans la société, effectivement, c'est souvent très véhiculé. Moi, je veux m'éloigner de ça. C'est pour ça que le livre se veut un recadrage pour se redonner des moyens.
Et l'on bâtit sur de bonnes expériences positives, donc de se rappeler que c'était un 7, un 8 sur 10 et qu'il n'y avait qu'un court passage qui ne fonctionnait pas, ça construit la confiance.
Absolument. J'ai même joué un jeu un jour avec un groupe de chanteurs en leur demandant de faire deux fois la même pièce, chanter deux fois une après l'autre. La première fois qu'ils ont chanté, je leur ai dit qu'est-ce qui était le meilleur dans ce qu'ils ont fait émotivement ou au niveau de leur technique. Et la deuxième fois, je leur ai demandé de faire plus de ce qui marchait bien. Ils n'ont pas essayé d'arranger ce qui n'avait pas marché la première fois. Et tout le monde a été jeté à terre. Ils ont fait, mais c'était 10 fois mieux. Et même les choses qui ont moins bien été, était meilleur, mm-hmm. en me concentrant non pas sur essayer d'arranger, mais sur faire plus de ce qui marchait bien.
Ouais.
Ça en est une stratégie, ça, par exemple.
Oui, et vous parlez de ça, de se ramener à soi.
Oui.
Ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on demande à l'autre, puis c'était comment? Comment t'as trouvé ça? Et quand le chemin peut être le plus efficace ou approprié est de retourner vers soi.
Oui, de se fixer un but spécifique et atteignable pour soi, de ramener... Vous savez, un but, il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle et des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Si mon but, c'est de gagner l'audition, je risque d'être dans la merde. Alors que si mon but, c'est vraiment de donner le meilleur de ce que moi j'ai à offrir, de réagir de telle façon quand il se passe quelque chose, là, je suis en train de construire sur ce que moi, je peux faire.
Mm-hmm.
Et non pas sur, ah oui, ce que je vais gagner ou pas. Ça, j'ai pas de contrôle là-dessus.
Mais est-ce que c'est assez précis comme but, comme cible, de se dire, ah, je veux donner le meilleur de moi-même?
On a besoin de le définir plus que ça. Donner le meilleur de toi-même, ça veut dire quoi pour toi? Je vais faire une différence entre un but plus global et une série de buts d'action spécifiques à petits pas qui vont te permettre... Donc, tu veux te tenir comment? Tu veux réagir comment? Tu veux physiquement, autant dans mon milieu à moi, évidemment, que musicalement, que émotivement, que techniquement. Alors, ça va englober vraiment plusieurs... C'est comme jouer aux échecs à plusieurs niveaux,
oui, oui.
plusieurs étages.
Oui. Bon, vous êtes coach en PNL, donc il y a l'apport du fonctionnement du cerveau aussi.
Définitivement, oui.
Quel est l'impact dans le souhait de performer?
Ah, il joue à plusieurs, de plusieurs façons, je vous dirais. Le plus simple à comprendre, c'est, comme par exemple, je mentionne souvent, si j'ai un concept à donner, à dire aux gens, ça peut vraiment vous être très utile, c'est celui que le cerveau ne se fait pas une représentation de ce qui est négatif.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, si je m'en vais performer, puis si mon but, c'est de ne pas pousser, pousse pas, bien là, je suis en train de conduire avec le pied sur le frein.
Oui.
Au lieu de faire, qu'est-ce que je veux? Si je ne pousse pas, je fais quoi? Ah, je m'ouvre, je rebondis, je suis en expansion. On a besoin chacun de trouver, de faire la traduction de ce qui est une intention négative et de trouver... la face cachée de l'autre côté qui est positive. Là, je vais me remettre dans l'action au lieu d'être en train de me retenir.
C'est une façon, et vous en parlez également, de changer le dialogue intérieur.
Oui, oui, c'est de recanaliser, rediriger le dialogue intérieur pour pouvoir justement se remettre dans l'action au lieu d'être en train de me retenir constamment.
Il y a des choses aussi qui fonctionnent. Dans l'humour, vous parlez d'une élève qui disait, je l'ai inscrit, je suis sexy et j'ai plein d'amis. Cette courte phrase qui est rigolote, oui. ça lui convenait et ça l'aidait
oui.
dans ses parutions sur scène, par exemple.
Oui, elle était partie du fait qu'elle a formulé quel était l'opposé de sa peur. Vous savez, une peur, ça vit dans le noir. Alors, plus elle reste dans le noir, moins on la questionne, plus elle a de la force.
Mm-hmm.
Alors, quand elle a eu nommé, elle avait peur du regard des autres. Elle avait peur d'être jugée de l'extérieur. Le contraire pour elle, c'est ce qu'on a travaillé pour le formuler, a fait, ben, dans le fond, j'ai peur d'avoir de l'air tarte. Le contraire d'avoir de l'air tarte pour elle, c'était « je suis sexy et j'ai plein d'amis ». Au lieu d'être rejetée par les gens, oh! elle dit « c'est bien trop vrai dans ma vie, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, puis dans le fond, je suis un peu sexy, je peux le croire ». Alors ça, c'est devenu pour elle un motto, un mantra qui a fait que « oh, là, elle pouvait laisser tomber les attentes de perfection ».
Donc, ce que j'entends par là, Claude, c'est que nos peurs, si on les écoute, elles deviennent un tremplin. Elles peuvent nous guider.
Non, derrière nos peurs, il y a un désir, il y a un besoin. Qu'on veut mettre à jour pour pouvoir, même l'énergie de la peur, elle est extraordinaire. On veut juste la canaliser pour pas qu'elle nous paralyse, mais bien qu'elle nous motive vers l'action.
Oui. Ce livre-là, il s'adresse, bon, vous travaillez auprès de chanteurs, de musiciens. Il pourrait s'adresser à qui d'autre?
Alors, moi, je pense qu'il va s'adresser, comme je mentionnais, à quiconque relève un défi ou est-ce qu'il sent qu'il y a une immense qu'il y a une pression. Une pression... Je suis toujours étonné de savoir qu'il y a des gens qui viennent dans mes formations du milieu des affaires.
Mm-hmm.
Des fois, qu'ils vont me dire... c'est sûr qu'évidemment, parler en public est directement relié avec ce genre de stratégie à mettre en place. Mais il y a aussi des gens juste de travailler dans un bureau. Ou est-ce qu'il y a une femme qui est venue me voir puis c'était vraiment, ah non, moi, ça me parle. Ton histoire de zone et de rester centré et de clarifier où je m'en vais et de...
Oui.
C'était fascinant, alors que dans le fond, elle travaillait dans un bureau.
Elle y voyait des outils quand même.
Qui, elle, faisait des liens. J'ai choisi de parler de mon milieu parce que c'est ce que je connais le mieux. Et je laisse le soin aux gens de faire la traduction pour eux. que ce soit des... Je donne peu d'exemples de sportifs, mais c'est clair que j'ai des amis sportifs qui l'ont lu puis qui ont fait « Ah, oh, mais ça, c'est extraordinaire pour moi. » Même, des fois, l'analogie parle plus que si je disais directement comment ça se passe dans votre milieu à vous, alors que moi, dans le fond, je le connais peut-être moins.
Oui. Ça, est-ce que ça pourrait convenir à des enfants?
Il y a des jeux, il y a plusieurs choses là-dedans qui, effectivement, seraient très ludiques pour les enfants. Il y aurait du fun à prendre possession de leur dialogue intérieur, à jouer avec, à dédramatiser.
Eux qui sont si créatifs.
Bien sûr, qui ont beaucoup plus d'accès. Alors, comme ça, ils arriveraient à l'adolescence déjà beaucoup plus outillés, qui est la période vraiment plus difficile par rapport au regard d'autrui.
Un outil, et vous en parlez, et je trouve ça important de le mentionner parce que ça reste quand même si intangible, c'est la confiance en soi. On nous parle toujours de ça, mais on ne nous dit jamais comment on peut l'obtenir.
Oui. La confiance en soi, c'est vraiment un sujet très vaste. On s'entend que c'est... Puis c'est souvent relié avec l'estime de soi. Puis moi, je propose une différenciation des deux notions dans le sens que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit dans le regard d'autrui. Alors que la confiance en soi, elle se construit dans l'action. Alors, on a besoin de rapetisser le but, de l'atteindre pour en faire des petits pas qu'on atteint et qu'on reconnaît. Puis là, tout à coup, on peut cumuler les victoires au lieu de juste se dire « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». C'est bien beau, la visualisation puis les affirmations. Mais on a besoin d'y arriver. Alors que si mon but est beaucoup trop gros, il y a plusieurs stratégies que je vais proposer, entre autres l'échelle de 1 à 10, là, justement, pour pouvoir se ramener soi-même puis se rendre compte que hey, je suis loin d'être aussi tarte que je pensais. La chanteuse qui disait qu'elle était nulle à 7 sur 10, c'est comme, ah, là, tout à coup, une question de confiance en soi qui est à
parce
construire.
Que 7 sur 10 en soi, c'était assez bien, là.
Ben oui.
Claude, quelqu'un, à un moment donné, me parlait de la confiance en soi en faisant cette allégorie d'une bibliothèque. Donc, chaque expérience positive est un livre que l'on met dans notre bibliothèque et on la construit.
Ouais.
C'est une image qui vous passe.
Moi, j'aime beaucoup ça. Puis je vous dirais que ce que j'observe souvent, c'est que les gens font ça. Ils mettent leur livre de succès dans la bibliothèque et ils mettent un rideau devant. Et il l'oublie tout de suite. Il ne compte pas. Il le rejette. Il le dismiss, qu'on dit en anglais.
On l'oublie parce que
ça, c'est pas important. J'ai l'autre à obtenir et à faire. Alors qu'une étape importante de la confiance en soi, c'est de reconnaître ce que je viens de faire.
Oui.
Et non pas de le diminuer.
Oui. En terminant, l'échec, ça fait partie de la réussite, à quelque part. Comment on s'en remet pour passer à autre chose et continuer à être dans la performance?
C'est une très bonne question. C'est toujours des questions de mots. C'est des questions de qu'est-ce que ce mot veut dire? L'échec, dans le fond, on dit souvent, nous autres, en PNL, on a un dicton qui dit il n'y a pas d'échec, il y a juste du feedback. Il faut dédramatiser. L'échec, c'est un peu comme les peurs. Ça vit dans le noir. C'est comme si mon estime de moi vient d'être écrasée. Alors qu'au fond, un échec, on oublie que quand on apprend à marcher, là, on tombe. On se relève, on tombe. On fait un pas et c'est Noël dans la maison. Le monde hurle, c'est une victoire incroyable. Si on était un petit peu plus accommodant et aidant avec soi dans la vie, on verrait que c'est peut-être pas des échecs, c'est juste des étapes normales d'apprentissage.
Oui. Encore une fois, de revenir un peu à l'enfant en nous. Oui. Atteindre sa zone d'excellence, guide pour performer sous pression, c'est chez les Éditions de l'Homme. Claude Webster, enseignant conférencier, coach professionnel, certifié en PNL et en hypnose. Votre livre, en fait, il sort officiellement aujourd'hui.
Il est sorti la semaine dernière, le lancement est ce soir.
Alors, on lui souhaite un beau succès.
Merci infiniment.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour, Josiane.
Bonjour.
Josiane Caron-Santa, ergothérapeute et auteure notamment de ce livre « L'apprentissage du découpage chez l'enfant » où on apprend que découper, c'est pas juste une activité banale. Il y a vraiment plein d'apprentissages. L'enfant va en chercher plusieurs.
Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est agréable et on peut faire plein de choses avec le découpage, mais à travers une activité comme le découpage, l'enfant peut apprendre plein de choses. En fait, son corps peut apprendre plein de choses. Le découpage, c'est une première activité, je dirais, complexe sur le plan de la motricité fine et aussi sur le plan d'utilisation d'un outil. On a probablement utilisé un crayon, une cuillère, une fourchette, mais là, les ciseaux, c'est plus compliqué. Et à travers ça, ben, on peut, entre autres, développer toute la musculature de la main. Hein, dans la paume de la main, il y a une musculature qui doit être développée et aussi qui doit être, on dit, séparée. Hein, pour qu'une partie de la main puisse travailler séparément du pouce. Et on appelle ça l'opposition. Et avec le découpage, c'est une façon de travailler un peu cette fonction-là de la main qui va être vraiment, vraiment très importante quand il va venir le temps d'apprendre à bien tenir un crayon, notamment.
Mais, même ce que je comprenais, c'est que si votre enfant a du mal à tenir sa fourchette, les heures de repas, là, c'est un enfer à cause de ça, bien, découper pourrait aider en soi, en partie, à régler le problème.
Oui, tout à fait. Puis, faire des pratiques de découpage, si on a un projet au bon niveau et c'est agréable, bien, c'est plus plaisant que de pratiquer à tenir une fourchette ou pratiquer à bien tenir une cuillère. Donc, ça nous donne un médium pour développer cette musculature-là et ce contrôle-là tout en s'amusant.
À partir de quel âge un enfant peut débuter à découper?
C'est une question bien précise, mais en fait, je dirais qu'à partir d'environ 2 ans et demi, l'enfant va... Attention, on commence à s'intéresser au découpage. Il va remarquer chez maman, papa, un grand frère, une grande sœur, l'utilisation des ciseaux, il va être intrigué. Et il va s'intéresser à peu près à ce moment-là à comprendre comment ça marche. Donc, il va s'étirer la main, il va vouloir, moi, découper, moi aussi. Mais c'est un peu tôt pour apprendre à découper comme tel. C'est sûr que si on a en main une paire de ciseaux jouets en plastique, très sécuritaire, ben c'est le fun. On lui laisse la manipuler comme il souhaite. Il va y aller avec 2 mains. Il va penser qu'il découpe. Hein. Il va donner des coups sur le papier. Et c'est pas mal le bon niveau vers 2 ans et demi, 3 ans. À un moment donné, il va commencer à s'intéresser à mettre les doigts dans les trous et à vouloir les activer quand il va avoir compris comment ça fonctionne. Puis, cette phase-là est importante. Puis, c'est de ne pas mettre trop de pression trop vite, de mettre les doigts dans les trous, fais comme maman, regarde, maman va te montrer. C'est beaucoup de le laisser expérimenter avec des petites choses à couper, un petit bout de papier. C'est l'idéal de le laisser expérimenter par lui-même plutôt que de tenir sa main, tenir le papier pour lui, parce que si on va trop vite et on le fait aller trop vite, il risque de développer des mauvaises habitudes motrices, des mauvaises, on appelle ça des compensations dans notre jargon, et ça va traîner, ça va le suivre.
C'est plus difficile à défaire après.
Oui, de tenir un crayon et toutes les autres tâches.
Il y a aussi une forme, bon, tout un passage où le découpage peut aider l'enfant à se préparer à l'école. Je parle bien sûr d'un enfant d'âge préscolaire.
Oui, bien, tantôt, je n'avais pas terminé d'expliquer ce qu'on peut développer avec le découpage. Entre autres, apprendre à coordonner ses 2 mains. C'est important pour, justement, quand je vais apprendre à colorier, à écrire, il faut que je tienne ma feuille. Quand je vais apprendre à attacher des souliers, j'ai besoin de travailler avec 2 mains. C'est aussi une bonne activité qui nous aide avec tout le développement visuo-moteur. Donc, les mouvements des yeux avec les mouvements des mains. Hein, si je veux attraper un ballon, il faut que je le suive des yeux, je l'attrape au bon moment. Si je veux enligner une fermeture éclair, c'est pas facile, là. J'ai besoin de mes yeux et de mes mains qui travaillent avec une bonne coordination. Et tout ça prépare à des tâches de la maternelle. En maternelle, on va commencer à écrire davantage. Donc, la fameuse prise du crayon, ben, c'est bien d'avoir la musculature pour la faire. Ce qui devient différent aussi en maternelle, c'est que le découpage n'est plus le but en soi, comme en garderie où on fait des projets, puis aujourd'hui on a découpé. C'est beaucoup plus instrumental. Donc, c'est à travers découper des petites images, les mettre avec des sons, on apprend des mathématiques, on apprend toutes sortes d'autres choses en découpant. Oui. Donc, si on imagine un enfant qui a de la difficulté avec la partie fonctionnelle du découpage, bien, il met beaucoup, beaucoup d'énergie et il en reste moins pour les apprentissages. Et ça peut enlever le goût un peu d'apprendre ou même de perfectionner son découpage quand ça devient trop difficile à ce moment-là et on attend que ça se fasse trop vite.
À la maison, on devrait découper avec notre mm-hmm. enfant là, combien oui. de fois?
vous avez les questions précises, hein? Ben, combien de fois? Encore là, si on a un enfant qui adore le découpage puis qui aime ça, ben, il n'y a pas de limite. On peut découper plusieurs fois par jour. C'est pas dangereux. Sous supervision, bien sûr. Quand on pense à développer la musculature et à s'entraîner pour mieux découper, ben, on pourrait peut-être faire un parallèle avec quand on va au gym ou quand on essaie de se mettre en forme. Ben, si on y va une fois par semaine, c'est plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Et plus les pratiques sont fréquentes, plus l'enfant va être capable de réinvestir sa pratique précédente pour la suivante.
Oui.
Hein, ce que ça veut dire, c'est qu'hier, ça n'allait pas bien, mais aujourd'hui, mon corps se souvient encore d'hier. Donc, il va peut-être essayer des nouvelles petites façons jusqu'à ce qu'il perfectionne ses capacités. Et si les pratiques sont trop espacées, bien, on a moins accès à ça. Donc, à chaque semaine, on refait un peu la même chose qu'on a fait. Et on a davantage besoin de conseils extérieurs et qu'on nous enseigne.
Et de pouvoir bâtir oui. sur des réussites aussi.
Oui. Je dirais que 3-4 fois par semaine, surtout quand on est entre 4 et 5 ans. Plus jeune, ça va avec l'intérêt, mais dans l'hiver, là, l'année, se préparant vers l'entrée en maternelle, c'est le fun là, de faire du bricolage plusieurs fois par semaine.
Mais je pose la question parce que je trouve que parfois, c'est l'activité délaissée des parents. Mmh. On va apprendre les couleurs, l'écriture, reconnaître les lettres, compter, mais découper, on n'y pense pas nécessairement d'entrée de jeu. Le temps file, Josiane, mais l'apprentissage du découpage chez l'enfant, c'est chez les éditions Madimax. Il y a plein d'activités pour vos enfants de 2,5 à 7 ans, à peu près.
De 2,5 à 7 ans, c'est que dans le livre, on va parler aussi de tout ce qui est préliminaire au découpage.
Merci, Josiane Caron-Santa. On glissera votre site sur notre site. Merci beaucoup.
Super, merci pour l'invitation.
Merci, Jean-Sébastien, Marianne Paquette. Au micro, rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.